France Inter, franceinter.com.
Je pensais à la couleur que j'avais obtenue lors de ma dernière exposition au soleil. J'avais un assez beau hâle, semblable au bronze. Scott Fitzgerald, Les Heureux et les Damnés. Mille ans d'histoire. Si aujourd'hui il n'y a pas de vacances sans bronzage, il a fallu des siècles avant qu'une peau bronzée soit à la mode et qu'on expose son corps au soleil. Jusqu'au XXe siècle, il fallait avoir la peau blanche. Toute femme qui aime doit être pâle, recommandait Ovide dans l'Antiquité. C'est la seule couleur qui convienne quand le cœur est épris. La couleur aussi qui distinguait la peau blanche de l'aristocrate de l'épiderme naturellement bronzé des paysans et des ouvriers. Et quand les médecins grecs et romains recommandaient que l'on expose son corps au soleil, ce n'était pas pour bronzer, mais pour soigner l'arthrite ou l'obésité. Il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'une peau bronzée devienne un critère de la beauté, à condition bien sûr de ne pas aller à la plage en jupon ou en caleçon, comme on le faisait à l'époque des premiers bains de mer, ou en chemise longue et en pantalon, comme Michel Blanc dans un film où il était le seul à ne pas être bronzé.
Tu vas mourir de chaud.
Bah oui, mais je suis obligé de me couvrir complètement. J'attrape des brûlures épouvantables, j'ai une peau de roue.
T'as qu'à mettre de la crème.
Mais je supporte pas la crème non plus, ça me file des allergies.
Tiens, tu veux que je te file mon écran total?
Mais qu'est-ce que tu t'es mis?
C'est de la crème, c'est pour éviter les coups de soleil.
Tu devrais essayer la graisse à chaussure. Eh, la peau, c'est du cuir.
On m'apporte mon string. Envoyez les serviettes. Faites briller les huiles, avancez ma chaise longue. Je m'en vais de ce pas, m'en prendre plein la tête. C'est l'heure de la bronzette. Faites sonner le gong. Viens, soleil, soleil, viens. Viens, il me frappe. Viens, cogne, même en plein. Vas-y, soleil, tape. Dans la figure, donne tes coups, vise-moi la tête, rentre-moi dans la rue, soleil, fais-moi ma fête, soleil, fais-moi ma fête.
Richard Gauthener, soleil, fais-moi ma fête, et c'est évidemment ce que l'on souhaite tous les ans avant de partir en vacances. Tous les ans, mais depuis peu de temps, car pendant des siècles, le soleil a plutôt été considéré comme un danger et on s'en cachait et le bronzage n'était pas à la mode. C'est ce que rappelle mon invité d'aujourd'hui dans un livre, Bronzage, une petite histoire du soleil et de la peau, publié aux éditions du CNRS. Bernard Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Alors, on sait depuis longtemps les effets du soleil sur la peau, hein, ça fait bronzer. Mais lorsque, autrefois, vous le rappelez, on adorait le soleil, dans l'Antiquité, ce n'était pas du tout pour bronzer.
Oui, autrefois, on était dans un contexte beaucoup plus religieux et sacré. On communiquait directement avec le soleil, on pouvait lui demander d'influer. On le voit dans le Tintin, le temple du soleil. Donc, il y a tout la question du rythme des saisons, le rythme de la nature.
C'était les Incas, ça, et les Aztèques aussi.
Les Incas, les Aztèques, les Égyptiens, le Japon aussi, les cultures orientales ont développé autour de l'astre une sorte d'adoration. On pouvait communiquer et surtout, on avait structuré la société à la fois à travers l'architecture, mais aussi à travers l'ordre politique autour d'une élévation vers cet astre divin.
Alors, il y avait le culte du soleil, pas du tout du bronzage, au contraire. Et pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle, il fallait avoir la peau blanche.
C'était même un idéal de classe sociale. On peut dire que pour les nobles, il fallait avoir une peau blanche. Il fallait même se protéger, se farder pour essayer d'avoir une apparence qui soit vraiment différente du peuple, qui lui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, était bronzé par la confrontation avec la nature, avec le travail, avec les éléments. Tandis que, bien évidemment, les nobles utilisaient des produits qui sont même avérés cosmétiquement dangereux.
Il y en a un que vous citez qui s'appelle la céruse.
La céruse, oui, c'est Catherine Lanoué qui a montré ça dans un très beau livre qui vient de sortir sur l'histoire des cosmétiques et qui montre comment justement la céruse était un produit qui s'est révélé à terme extrêmement dangereux, qui attaquait même la peau. Et donc, malgré ce danger connu, on se fardait parce que, bien évidemment, il s'agissait de recouvrir la peau naturelle d'une sorte de masque social d'apparence qui permettait à la fois de séduire, mais aussi de jouer le jeu de l'apparence.
Il y a aussi la poudre de riz. D'ailleurs, il fallait que tout soit blanc, pas seulement la peau, mais même les cheveux, d'où ces perruques, hein, justement, sur lesquelles on mettait de la poudre. Enfin bref, c'est aussi une question de rang social, vous le rappelez. Et quand on allait au soleil, ce n'était pas pour bronzer, mais pour se soigner.
Hercule Poirot n'est pas obèse.
Pas au sens où vous l'entendez, mais médicalement parlant, vous l'êtes.
Cela peut engendrer des problèmes cardiaques, ce qui a dû causer, enfin, vous savez.
Et c'est de la part du docteur, je l'ai appelé ce matin, il vient juste de faire déposer ça. L'hôtel Sandy Cove, en plein sur la côte sud. Il y a 2 ans, c'est devenu un centre de remise en forme que tous les docteurs recommandent.
Régime draconien par la diète et l'exercice, la mer et le soleil.
Ce sont les ordres du docteur, vous avez une chambre pour 2 semaines.
Ne vous en faites pas, je suis persuadé que vous adorerez.
Dites-moi, vous n'êtes pas là pour affaire, monsieur Poirot ?
Non, je viens sur recommandation de mon docteur.
Il faut savoir prendre du repos de temps en temps.
Rien de tel que l'air de la mer et le soleil.
Je prends facilement des coups de soleil, je ne peux pas m'exposer.
Alors si on, à partir d'ailleurs dès l'Antiquité, on s'expose quand même au soleil, c'est pour se soigner. C'est ce qu'on appelle, vous le rappelez Bernard Andrieux, c'est l'héliothérapie.
Oui, l'héliothérapie ou l'héliose, hein, c'est l'idée d'exposer à la lumière solaire. Parce qu'il y avait une sorte de croyance qui a été reprise à la fin du XIXe siècle, d'une action cicatrisante, analgésique, voire stimulante du soleil, pour lutter justement contre les maladies, on va dire, atmosphériques. Bon, on souffrait beaucoup de tuberculose, on souffrait beaucoup d'asthme, on souffrait de pollution dans l'urbanité industrielle du XIXe. Donc on va essentiellement rechercher le soleil comme une sorte de cure de plein air.
Même dans l'Antiquité, un Hippocrate, vous le dites, voilà, recommandait le soleil sans abus.
Voilà, le soleil sans abus. Et puis aussi, il y avait toute une réflexion sur l'orientation des maisons. Il ne faut pas oublier que, bien évidemment, lorsqu'on allait au bain, il y avait aussi toute une succession. Il n'y avait pas que l'eau, il y avait aussi l'exposition au plein air. Donc, l'idée, c'est de lutter contre l'anémie, contre le rachitisme, contre la pâleur, contre aussi la dépression, la fatigue. Et donc, ça va aboutir à la création des sanatoriums.
Il y a des bains de mer aussi qui apparaissent à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans les endroits les plus ensoleillés, puisque les premiers bains de mer, c'est ceux où allait Hercule Poirot au sud de l'Angleterre, c'est au nord de la France aussi, c'est Dieppe, c'est Étretat, c'est l'Atlantique. D'ailleurs, la Côte d'Azur, où il n'y a plus de soleil, est arrivée, la mode de la Côte d'Azur est arrivée beaucoup plus tard. Mais à chaque fois, il fallait quand même une tête couronnée qui a rendu ces stations balnéaires populaires, Bernard Andrieux.
Oui, tout à fait. C'est en fait, comme Alain Corbin l'a montré, c'est les Anglais qui sont installés en fait à Dieppe, au Havre, puis après à Deauville, et sont descendus petit à petit dans le sud, à Biarritz ou dans la Côte d'Azur.
Grâce à l'impératrice Eugénie.
Voilà. Oui. Et donc, on va installer en fait des plages qui, au début, ne sont pas du tout faites pour bronzer. Hein. Ce sont des plages qui sont faites essentiellement pour prendre l'eau et pour provoquer une sorte de réaction thermique au corps.
Quand on voit d'ailleurs la tenue que portaient les hommes et les femmes sur ces plages-là, des stations balnéaires, ils ne risquaient pas de bronzer, hein, c'était des jupons, il y avait 6 pièces dans les maillots à l'époque, et puis évidemment, il y avait des censeurs qui étaient bien vigilants, enfin, qu'on dévoile un morceau de peau.
On rentrait dans l'eau, même avec des charrettes qui étaient tirées par des chevaux, où la dame donc se changeait à l'intérieur de cette cabine dans l'eau, et on descendait dans l'escalier avec une sorte de maître nageur qui soutenait la personne dans un maillot, 1 pièce, bien évidemment.
Alors, même des gens qui ne cachent rien, ce sont les naturistes. Et les naturistes, ils font pas du naturisme pour bronzer. D'ailleurs, ça apparaît dès le 19e siècle. Et c'était, au fond, une façon de soigner le corps, mais aussi l'esprit. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'un grand naturiste, en tout cas celui qui l'a promu, qui était un grand géographe, Élisée Reclus, avait développé, encouragé le naturisme. Il appelait ça la gymnosophie.
La gymnosophie, oui, c'est-à-dire une sorte de moyen de revitalisation du corps dans un contexte effectivement global. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de soigner son corps, mais aussi de soigner un petit peu la civilisation, c'est-à-dire de refuser une industrialisation qui ne permet pas d'avoir véritablement une vie sociale. Et donc, bien évidemment, on va, pour des besoins hygiéniques, mais aussi au plan physique et au plan moral, pratiquer la diététique, pratiquer la gymnastique. C'est à ce moment-là qu'on commence à créer l'éducation physique aussi en France. Et donc, petit à petit, on voit apparaître l'idée de prendre soin de son corps.
Alors, cela dit, pas pour bronzer, donc ce n'était pas encore à la mode. Et le bronzage ne deviendra à la mode qu'au XXe siècle, à l'époque où les Parisiens découvraient dans les années 20 une chanteuse noire américaine dont tous les Français ont soudain rêvé d'avoir la peau aussi foncée qu'elle, Joséphine Baker.
Quand je suis arrivée en France en 1924, comme vous le savez, c'était la mode de les femmes. Les femmes étaient très blanches, de peau jolie et pâles. Toutes les femmes étaient roses, roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle. Et moi, je suis arrivée en la peau bronzée et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau. Tout de même, elles voulaient à toute force être bronzées. Alors, les maisons comme Antoine, le coiffeur, a inventé des crèmes pour bronzer la peau plus vite, paraît-il.
Je voudrais être blanche, chantait Joséphine Baker en 1933, précisément au moment où les gens voulaient faire un peu comme elle et avoir la peau plus foncée. À quoi ça correspond brusquement, cette mode du bronzage, alors que pendant des siècles, on ne voulait qu'une chose, c'est avoir la peau blanche. À quoi est-ce que ça correspond, Bernard Andrieux ?
Alors, on sort à ce moment-là des expositions sur les os humains. Vous savez, on avait exposé effectivement les populations coloniales, noires, même à Paris. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, lorsque Joséphine Baker arrive, il y a une sorte d'exotisme, de culte de la peau noire qui est toujours restée une constante à Paris. Donc, bien évidemment, on va essayer de s'approprier à travers des moyens techniques l'idée, tout compte fait, de colorer sa peau, de devenir un petit peu aussi exotique que Joséphine Baker. Mmh. Mais c'est quand même une problématique de blanc. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a une limite dermatologique. Nadine Pomared le rappelle dans sa préface, c'est que, bien évidemment, les blancs ne peuvent pas bronzer autant que les noirs. Il y a des différences de peau. Et donc, c'est vraiment pour des démarcations, c'est-à-dire qu'on veut se démarquer véritablement des Noirs, mais en même temps, on voudrait bien ressembler, changer de peau.
Ça va plus loin, hein, c'est que brusquement, on trouve que la peau bronzée, c'est beau. Vous citez André Gide qui, en 1902, là, c'était bien avant Joséphine Baker, écrit la chose suivante dans L'Immoraliste. Un matin, la blancheur de ma peau m'emplit de honte. L'air était presque vif, mais le soleil ardent, j'offris tout mon corps à sa flamme. Bientôt m'enveloppa une cuisson délicieuse. Je me regardais longuement, sans plus de honte aucune. Je me trouvais non pas robuste, mais sensuel et presque beau.
Il y a une sensualité qui est due au bronzage par la chaleur qu'elle provoque sur la peau, une sorte d'intensité de la brûlure hein, qui active tout compte fait cette peau, qui donne, Gide le décrit bien, une sorte de force physique, de confiance en soi, face bien évidemment à un corps blanc, usé, fatigué. Et puis bien évidemment, le sport va être un moyen d'exalter la nudité du corps, l'exposition au plein air, et donc ça va ressourcer la recherche de cette vitalité.
Coubertin, l'inventeur des Jeux Olympiques, disait « Je rebronzerai une jeunesse veule et confinée hein, ». C'est bien ça. Mais on bronze aussi, vous le rappelez, pas tellement pour être beau ou pour soi, on bronze au fond pour les autres. C'est un signe extérieur, peut-être de vitalité, de bonne santé, mais c'est pour se montrer.
Il s'agit d'attirer le regard de l'autre. Hein. Effectivement, le fait d'avoir une peau blanche fait que nous sommes totalement indifférents. Il s'agit d'attirer le regard de l'autre pour pouvoir lui montrer que tout compte fait, on a pris soin de soi. On montre certaines parties de son corps bronzées et pas d'autres. Il y a toute une question de démarque du vêtement. On voit ça avec le Tour de France, avec les cyclistes, hein, où on voit cette délimitation tout compte fait du corps. Et ça, c'est très important de pouvoir cacher une partie blanche qui serait encore intime et une partie bronzée qui serait, quand on fait, une peau publique. Hein, c'est la peau que je montre.
Alors, une mode du bronzage favorisée et d'ailleurs rendue possible par l'invention de la crème solaire pour protéger sa peau du soleil et bronzer avant même d'aller à la plage.
Laurence Patte, les vacances au bord de la mer posent de multiples problèmes. Avant le départ, pendant le séjour, après le retour, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet à nos auditrices?
Deux ou trois semaines avant les vacances, on affine sa ligne, puis alors on commence son bronzage.
Et qu'appelez-vous commencer son bronzage? On doit aller sa peau à l'avance?
Eh bien, certainement. L'épiderme, lorsqu'il est préparé par des émulsions, par des baumes, n'est pas sujet à rougir, à peler, à se déshydrater dès les premières heures ensoleillées.
Mais faut-il préférer, quand enfin on est sur la plage, les huiles, les gelées ou bien tout simplement les crèmes?
Ce qui est important, c'est de sélectionner un produit à base d'huile végétale qui soit fluide et que l'eau de mer ne dissolve pas naturellement. Une crème solaire comme celle dont je viens de parler est une sorte de fond de teint qui unifie la peau et la rend très belle, n'est-ce pas?
Laurence Patte, je vous remercie.
Quand ces rayons tendrement caressent ma peau, je suis bien et le monde tourne rond. Je ne pense pas, j'ouvre les bras nu au soleil.
Alors pour être nu au soleil, comme Brigitte Bardot, il faut évidemment protéger sa peau. Vous rappelez, Bernard Andrieux, que le soleil est aussi dangereux, que les cancers de la peau augmentent de 7% par an ces dernières années. Alors le bronzage, en fait, il faut, pour bronzer, il faut des crèmes. Et les crèmes sont contemporaines, au fond, de la mode du bronzage. Elles apparaissent au début du XXe siècle.
Oui, c'est une question qu'on peut se poser. C'est, est-ce que c'est les crèmes qui ont inventé le bronzage ou est-ce que c'est le bronzage qui a inventé les crèmes? Alors la thèse que je défends plutôt, c'est que c'est les crèmes qui ont un peu précipité la
des
publicité,
choses.
La médiatisation, la vulgarisation du bronzage. Oui, en fait, c'est lié en fait, à l'invention des grandes industries cosmétiques, hein, qu'il s'agisse d'Elena Rubinstein, de Nivea ou de L'Oréal. On trouve là les grands groupes qui, tout compte fait, avec leurs pionniers, vont trouver des solutions en fait, qui sont dues au fait que, par exemple, Jean Schuller, qui est un des fondateurs de L'Oréal, bien, lui, il est confronté au fait qu'il prend des coups de soleil sur la
sur son bateau.
Sur son bateau, et donc il revient un peu furieux vers ses ouvriers. Il dit, voilà, il faut que vous me trouviez une huile qui me permette de ne pas souffrir. Nivea participe aussi de ce mouvement-là. La crème Nivea, au départ, n'était pas du tout orientée vers la protection du soleil. Mais petit à petit, on va en faire un usage aussi pour se protéger au soleil. Au ski, mais aussi à la plage.
Avec des huiles, parce que vous rappelez aussi que les premières protections contre le soleil, c'était des graisses animales qui avaient évidemment l'inconvénient de rancir, si bien que ça risquait de compromettre les rencontres à la plage. Hein.
Tout à fait. Alors, on a remplacé petit à petit ces graisses animales par des essences d'agrumes, de lavande, de lys, de rose, de lilas, qui vont effectivement permettre aussi de développer l'industrie du parfum. Hein, c'est-à-dire qu'on voit très bien, Marie-Hélène Grasse a fait un livre qui montre très bien le lien entre comment on passe de la question du bronzage à la question du parfum. Il y a un glissement tout compte fait dans ces industries, puisque se pose aussi la question de l'après-bronzage, de la crème pour se protéger, pour retrouver une peau saine.
Alors, il faut aussi pouvoir bronzer tout en se protégeant ou se protéger tout en bronzant. Donc, c'est la révolution, vous l'avez dit, de l'ambre solaire. En plus, ça tombe bien. L'ambre solaire arrive sur le marché en 35. On est à la veille des congés payés et tout le monde va sentir l'ambre solaire sur les plages de l'été 36 et 37. Et alors, des bronzages qui s'adaptent aussi à la couleur des peaux. Car selon que l'on est blond, brun ou roux, on ne bronze pas de la même manière.
Oui, tout à fait. Dès la fin des années 60, c'est posé le problème de la différenciation des différents types de peau. Donc, à la fois trouver des indices qui correspondent au niveau de bronzage de chaque peau et à la qualité de la peau. Et donc, on voit apparaître un certain nombre d'indices au début des années 60 qui vont permettre de classer. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un produit, plus vous prenez un indice fort, plus c'est un facteur de protection fort. Mais en fait, c'est lié à votre type de peau. Et donc, bien évidemment, il faut faire le rapport entre la qualité de sa peau, ce qui oblige aussi le sujet contemporain à s'observer, à prendre connaissance de son propre corps, à toucher sa peau, qui sont des pratiques totalement aussi nouvelles, puisque autrefois, on donnait plutôt sa peau au médecin, aux spécialistes. Là, il y a une sorte d'auto-soin qui commence à apparaître.
Alors, la protection de la peau augmente au même temps, d'ailleurs, que la surface des maillots de bain diminue.
L'affaire du Monokini rebondit. Les juges de la cour d'appel d'Aix-en-Provence semblent maintenant être favorables au Monokini. Ils ont relaxé hier soir une jeune femme qui s'était exhibée l'été dernier sur une plage de Cannes dans cette tenue, ou dans cette absence de tenue, comme vous préférez.
Dans ses attendus, la cour d'appel d'Aix a tenu à faire savoir que le spectacle de la nudité du corps humain n'avait rien en soi qui puisse outrager la pudeur, à condition évidemment qu'il ne soit pas accompagné d'une attitude provocante et qu'il ne tourne pas à l'exhibitionnisme.
L'opinion maintenant sur ce problème d'un Marseillais célèbre, je n'ai pas besoin de vous dire ni son nom ni ses qualités, vous allez reconnaître sa voix et son accent.
De seins nus tous les soirs dans les balles, ou dans des réunions au bord de mer, empêcherait certainement les mâles, dont je fais partie, d'avoir ce désir que nous avons toujours eu, en se disant peut-être qu'elle est bien foutue.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, itty bitty tini wini, tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle itty bitty tini wini, tout petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2.
L'histoire du bronzage, Bernard Andrieux, vous le rappelez, c'est celle aussi du maillot de bain dont la surface n'a jamais cessé de diminuer. Vous dites qu'à l'époque des premiers bains de mer, il y avait 6 pièces, carrément, il ne fallait pas montrer un brin de peau, ni l'exposer au soleil, et puis ça a diminué d'ailleurs malgré la vigilance d'une censure terrible. À chaque fois que la taille des maillots de bain diminuait, les censeurs apparaissaient.
Oui, dans l'extrait que vous avez passé de Fernandel, on voit tout à fait la différence de genre qu'on veut établir entre les hommes et les femmes. Et dès 1847, à la Teste, en Gironde, près d'Arcachon, on voit que déjà, on obligeait les dames à se déshabiller séparément des hommes. Et donc, il y a toute une, Jean-Didier Urbain l'a bien montré, une sorte d'organisation de la plage suivant, bien évidemment, les lieux et la façon de s'habiller.
Alors il y a le une pièce, on commence je crois un peu à montrer son nombril entre les deux guerres, mais alors la révolution épouvantable, évidemment c'est affreux, vous rendez compte, le bikini, voilà que ça ressemble maintenant à un sous-vêtement, le maillot, j'ai dit ça au second degré, le bikini qui a une histoire assez marrante. D'abord, oui. Pourquoi s'appelle-t-il bikini, Bernard Andrieux?
En fait, au départ, c'est Jacques Haim, un couturier de Paris, qui voulait créer un modèle de pièce qui s'appelait l'atome. Et en fait, il a été repris par Louis Réard, qui, à la suite de la troisième bombe atomique américaine sur l'île Bikini, a décidé de baptiser ce maillot de bain qui s'appelait Atom sous le terme de Bikini, 5 jours donc après l'explosion américaine. Et donc ça a fait un véritable scandale, puisque aucun mannequin professionnel de l'époque n'acceptait de porter ce bikini. Et c'est une danseuse, toujours les danseuses avec Joséphine Becker, Michel Bernardini ici du Casino de Paris, qui va porter donc ce modèle de 45 cm cubes, carré, excusez-moi, qui va l'arborer et qui donc va présenter ce maillot qui est effectivement le plus petit maillot du monde.
Et un des plus chers, tout le monde ne peut pas avoir un Réard. Réard, c'était donc l'inventeur, autrement dit, plus la taille des maillots diminue, plus leur prix augmente. formidable, oui. On fait des profits avec de moins en moins de matières premières.
Ce qui va changer plus fondamentalement, c'est le fait que la femme va exposer en fait des parties de son corps qui étaient jusque-là invisibles publiquement et qui étaient réservées à la sphère du privé. Donc dans une certaine mesure, on peut penser que c'est une libération bien évidemment du corps, mais en même temps, c'est une organisation de ce corps dans la scène publique. C'est-à-dire que lorsqu'on va passer au monokini, puis au string, on voit bien que même aujourd'hui avec le
on
string...
On ne peut pas aller plus loin. Hein.
Voilà, il y a quand même une organisation du regard. Hein. Il faut organiser le regard de l'homme, en l'occurrence, dans une direction bien précise.
Et aussi, il y a la volonté de bronzer au maximum, ce que l'on fait également, on l'oublie souvent. D'abord, on peut le faire toute l'année, on peut le faire au sport d'hiver. On n'a parlé que de la plage, mais il y a aussi les sports d'hiver. Et puis, il y a le bronzage perpétuel. Au fond, on est bronzé également en ville pendant l'hiver, grâce justement d'abord à la lampe solaire.
Voilà, une invention de 1904 absolument colossale, qui est l'invention de la lampe solaire dans l'industrie allemande et qui va se répandre petit à petit à la maison. C'est-à-dire qu'on va acheter sa propre lampe à la maison pour se bronzer. Et puis on voit apparaître à partir des années 60-70 les fameuses cabines d'UV donc, qui envahissent aujourd'hui toutes nos villes et qui vont permettre, vous le disiez justement, de pouvoir rester bronzé toute l'année. Je crois que c'est un peu ça la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, avec les auto-bronzants, avec le soleil artificiel, on peut se préparer au bronzage. Ça ne remplace pas, bien évidemment, l'exposition au soleil naturel, la confrontation avec les éléments naturels, mais c'est une sorte de succès d'année que se propose l'homme urbain face, justement, au peu de temps qu'il a à consacrer aux soins solaires.
Avec les aliments solaires aussi.
Voilà, on peut aussi manger donc des aliments pour pouvoir se préparer à la peau solaire, tout en, bien évidemment, évitant avec une diététique, c'est-à-dire que ça va sur une réflexion un peu globale. Aujourd'hui, s'exposer au soleil, c'est aussi une dimension un peu écologique où on prend soin de soi.
Ah oui, alors je suppose que c'est du carotène, enfin c'est voilà. des aliments à base de carottes. Il y a une chanson aussi qu'on n'a pas passée, et qui est une chanson assez jolie, Soleil, le soleil donne la même couleur aux gens. Et cette, apparemment, ce bronzage, vous nous avez rappelé Bernard Andrieux, qu'on bronzait pour vouloir ressembler à Joséphine Baker, mais vous dites aussi l'idéologie du tous bronzés n'a pas fait disparaître ni le racisme, ni la discrimination à l'embauche, ni la hiérarchie esthétique. Au fond, on veut bien ressembler à Joséphine Baker, mais le racisme n'a pas diminué pour autant.
Voilà, il ne faut pas être trop bronzé, parce que si on est trop bronzé, on va basculer dans une catégorie qui serait celle de l'immigré, de l'arabe, de celui qui serait véritablement le marqueur de la différence. Donc on veut maintenir cette petite différence du blanc par rapport aux autres cultures, ce qui fait que c'est un petit peu un échec, le bronzage. On aurait pu penser que c'était
un
facteur d'intégration, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le néocolonialisme solaire en Tunisie, au Maroc, se développe. Tout le monde va là-bas pour se bronzer. Ça développe l'économie locale, mais du point de vue de l'idéologie raciste, elle reste.
Merci Bernard Andrieux. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Bronzage, une petite histoire du soleil et de la peau », édité aux éditions du CNRS. Et vous avez également dirigé avec Gilles Boesch le Dictionnaire du corps, également au CNRS. À lire aussi « L'invention du bronzage » de Pascal Horry, qui vient de paraître aux éditions Complex. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Les vacances d'Hercule Poirot » d'Anthony Horowitz, édité en DVD aux éditions Atlas, et du film « Les bronzés » de Patrice Lecomte, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Noël Vélan et Gilles Gaillard, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Oliva et Élise Médétournion, et une réalisation comme d'habitude d'Anne Comilac. Et c'était la dernière émission en direct de la saison. Merci d'avoir été fidèles et de plus en plus nombreux à écouter, à nous écouter ou à podcaster l'émission. Rendez-vous le 1er septembre prochain pour la 10e année de 2000 ans d'histoire sur l'antenne de France Inter. En attendant, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances, mais sans vous quitter, puisque vous pourrez réécouter tout au long de l'été 45 rediffusions de quelques-unes des émissions que vous avez préférées, tous les jours à partir de lundi prochain à 13h30. Et nous commencerons par une histoire de la conquête amoureuse. Bonnes vacances à tous, à l'écoute de France Inter, bien sûr.